Bienvenue à l'écoute de ce deuxième audio d'Être sur Terre, les outils pour être bien en soi et bien chez soi. Par Clémence, géobiologue et conseillère en environnement électromagnétique. Le sujet que je vais aborder cette fois est celui de l'électrosensibilité ou hypersensibilité. Je commencerai par une définition de ces affections. J'en détaillerai les symptômes courants, puis j'en explorerai les causes et origines possibles, pour finir par les gestes de prévention et de protection. Comment se prémunir et comment vivre au mieux lorsque l'on a développé cette sensibilité aux ondes électromagnétiques artificielles. Si tu n'en as pas connaissance, je t'invite à écouter mon premier audio sur les ondes électromagnétiques, qui est une bonne introduction à celui-ci. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque l'électrosensibilité, l'électro-hypersensibilité, qui sera abrévié en EHS, et le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, abrévié en SISEM. Une personne électrosensible est sensible aux ondes électromagnétiques artificielles. Ça, on l'avait deviné. Et parfois également, aux rayons cosmiques et aux changements de météo. Étonnant, mais véridique. C'est une gêne pour cette personne, mais ce n'est pas un handicap. Elle peut vivre quasiment normalement. Elle te demandera probablement de désactiver ton Wi-Fi ou de mettre ton smartphone en mode avion. Une personne électro-hypersensible, EHS, remplit les mêmes caractéristiques, mais accentuées au point que cette sensibilité en devienne handicapante. Je préciserai certains des symptômes un peu plus tard. Parce que ces personnes n'étaient souvent pas prises au sérieux par le corps médical, leur médecin leur disait, et cela arrive encore, que leurs troubles étaient d'origine psychique, des chercheurs ont trouvé des marqueurs biologiques correspondant aux symptômes. Vulgarisation rapide, lorsque tu fais une infection, ton corps réagit, et cela peut se remarquer lors d'examens médicaux, comme une prise de sang ou un IRM, par exemple. Là, les chercheurs ont trouvé la conséquence biologique de l'exposition aux ondes, pour faire simple. En bref, ils ont donc nommé les troubles des électro-hypersensibles qui venaient consulter le SICEM, c'est-à-dire syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, SICEM. En faisant différents examens médicaux, les personnes souffrant d'EHS peuvent désormais se faire diagnostiquer comme atteinte du SISEM et demander une reconnaissance de travailleur handicapé. Pour plus de détails sur ce sujet, je te recommande la lecture du Livre noir des ondes par l'équipe du professeur Bellepomme. Dans la suite de cet audio, je parlerai génériquement d'EHS pour désigner les électrosensibles, hypersensibles et les personnes atteintes de SISEM. Mais comment se manifeste cette sensibilité, voire hypersensibilité, aux ondes? Ce que je vais relater ici est issu de divers témoignages écrits, audio ou directs de personnes EHS rencontrées et ne sera pas une liste exhaustive. Les symptômes les plus bénins sont des maux de tête, de la fatigue, des acouphènes, des pertes passagères de mémoire, ou de l'anxiété. Ces personnes peuvent également souffrir de troubles de l'attention et ne peuvent se concentrer si un portable est mis à proximité. De troubles de la vue, comme un rétrécissement du champ visuel, de douleurs rhumatismales et articulaires. Cela peut leur arriver de s'évanouir. Elles peuvent avoir des graves troubles du système nerveux, perdre la sensation de faim ou de sommeil, développer un cancer. Une sensibilité chimique multiple est souvent liée à une électrosensibilité. Elle peut en être une cause comme une conséquence. La sensibilité chimique multiple est une sensibilité à tous les produits chimiques qui peuvent être contenus, par exemple, dans des produits ménagers, dans des revêtements, dans des peintures, ou encore comme des pesticides, par exemple. Donc, il arrive que des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple développent une électro-hypersensibilité, ou inversement, que les personnes déjà électro-hypersensibles développent en plus une sensibilité chimique multiple. Ces personnes doivent, à cause de leur sensibilité, quitter leur travail, se couper de toute vie sociale, déménager, parfois dans des conditions inhumaines. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est, tu peux te demander, mais comment devient-on EHS ? On est avec ? Comment ça se passe ? Je traiterai dans des prochains audios, de façon plus détaillée, de la grossesse, de l'enfance et des ondes. Mais d'accord, je t'en glisse déjà un petit mot. Oui, les ondes électromagnétiques artificielles peuvent perturber la grossesse et le bon développement de l'enfant. Les ondes sont même une des causes probables de l'autisme, entre autres. Et oui, les bébés peuvent déjà être sensibles aux ondes. L'EHS peut malheureusement se développer dès l'enfance. Cependant, elle peut également se développer plus tard. Et une des causes en est la tension induite. Mais qu'est-ce que la tension induite ? Sans rentrer trop profondément dans les détails de notre physiologie, nos cellules ont un potentiel électrique. Cela leur permet de recevoir des informations d'ordre électromagnétique à l'intérieur du corps et également en provenance de notre environnement. Ce qui fait que, lorsque nous sommes dans un champ électrique ou électromagnétique d'un appareil, nos cellules vont vibrer, être excitées par ce champ, à la même fréquence. Imagine donc le Wi-Fi, dont la fréquence vibre à 2,4 GHz, c'est-à-dire à 2 milliards 400 millions de cycles par seconde. Nos cellules, dans un environnement Wi-Fi, vibre donc à la même fréquence ou rapidité. Choquant, non ? Notre corps, lui, aime ce qui est stable et constant. Ainsi, les fréquences pulsées du Wi-Fi et de la téléphonie mobile sont particulièrement délétères. Si tu ne sais pas ce qu'est une fréquence pulsée, va écouter mon premier audio. À terme, cela génère un stress cellulaire permanent qui provoque de l'inflammation, qui à son tour augmente le stress. Et c'est parti pour un cercle vicieux de dégradation de la santé de notre corps. On peut mesurer la tension induite dans notre corps par le champ électrique de l'électricité domestique grâce à un testeur de tension induite. Ce qui nous amène aux solutions. Car maintenant que tu sais tout ou presque sur ces troubles, tu te demandes peut-être « Ok, ces gens-là, comment ils font ?» Ou peut-être que tu es toi-même électrosensible et que tu ne sais pas comment faire. Ou tu veux protéger tes enfants. Bon réflexe ! Donc, comment fait-on en pratique pour maîtriser notre exposition et bien vivre malgré les ondes artificielles. Tout se joue autour de la trilogie éteindre, éloigner, protéger. En allant des gestes simples au blindage, qui peut être très coûteux. Mais malheureusement, quand on n'a plus le choix, on y met le prix. Je vais donc énumérer quelques gestes que tu peux mettre en place pour te protéger. La liste est non exhaustive. Premier geste. Éteindre et débrancher. Que peut-on couper ? La lampe de bureau quand on n'en a pas besoin. Les chargeurs. Débranche toujours les chargeurs inutilisés. Ne laisse pas un chargeur branché sur une prise quand il n'est pas en train de charger un appareil. Les chargeurs sont vraiment une source d'une grande pollution électromagnétique. Tu peux éteindre les services de ton smartphone dont tu n'as pas besoin. Tu n'utilises probablement pas en permanence le Wi-Fi, le Bluetooth ou les données mobiles. Tu peux aussi éteindre le Wi-Fi. Comment je vais faire pour me connecter sans Wi-Fi ? Tu ne te souviens peut-être pas, mais ton opérateur t'a probablement fourni un petit câble RJ45, dit câble Ethernet, avec la box. Et s'il n'en a pas fourni, tu peux t'en procurer un dans les magasins d'électroménager. Et depuis la box, brancher ton ordinateur. On peut tout câbler. Oui, même le smartphone avec un adaptateur. Mais enfin, les câbles, c'est pas pratique. Alors là, il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne veut pas de Wi-Fi, il faut câbler. C'est possible de faire passer les câbles dans ou contre les murs. Te protéger ou pas, le choix est de ton côté. Et ce n'est pas que te protéger d'ailleurs, car le Wi-Fi impacte aussi tes proches, ton voisinage, tes animaux de compagnie, etc. Disons qu'une première étape est de couper le Wi-Fi au moins pendant la nuit. Ton sommeil te remerciera. Deuxième geste. Éloigner ou s'éloigner. Quelques exemples. Évite d'avoir ton smartphone sur toi quand tu ne t'en sers pas. Pose-le à 1 ou 2 mètres. Pour ne pas être dans son champ. De même pour les objets connectés. Je te déconseille vivement les montres connectées, les oreillettes Bluetooth, qui émettent des champs sur ton corps ou juste à côté de ton cerveau. Arrange-toi pour que ta box ne soit pas près de ton bureau ou de ton lit, surtout si elle émet en Wi-Fi. Et même si tu coupes le Wi-Fi avant de dormir, car elle n'est pas mise à la terre. Ce qui nous amène au troisième geste, se protéger. Première chose, mettre à la terre. Vérifie que ton installation électrique est aux normes, ainsi que chaque prise de ton logement. Les mauvais câblages sont hélas monnaie courante, et pas que dans les installations anciennes. Il existe des testeurs de terre peu onéreux pour ce faire. Une fois que tu as vérifié la prise, mets à la terre les appareils dont le champ électrique pourrait impacter et qui n'ont pas de prise de terre. Un exemple, la box Internet. Comment ? Eh bien, tu trouveras des kits de mise à la terre sur des sites Internet de vente de solutions de protection des ondes. S'il n'y a plus d'autre solution, que ton voisin ne veut pas couper ou déplacer sa box qui est juste derrière ton mur, qu'une antenne relais expose ton logement, il faut blinder. Tissu anti-ondes, peinture, film pour les vitres sont des dispositifs que tu pourras mettre en place. Une dernière chose pour se protéger et se régénérer, on peut aussi se mettre soi-même à la terre. Comment ? En marchant ou en étant assis sur un conducteur relié à la terre. Exemple, marcher dans l'herbe, c'est ce qui est le plus simple. Ou utiliser un dispositif de mise à la terre, de préférence grâce à un piquet alternatif à la terre de la maison. Il existe également un traitement médical pour les personnes diagnostiquées 6M. Mais mieux vaut ne pas en arriver là. Si cela t'arrive, je t'invite à consulter un professionnel compétent. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Dernière remarque, et ce n'est pas uniquement pour faire la promotion de mes prestations. Avant de blinder, il est nécessaire de faire, ou de faire faire, des mesures des champs électromagnétiques dans ton logement. En effet, en fonction de la source d'émission des champs électromagnétiques, un blindage peut faire plus de mal que de bien. Et il s'agit de te protéger, pas d'amplifier le problème. Si tu veux me faire intervenir chez toi, tu trouveras mes prestations sur la page diagnostic de mon site être-sur-terre.fr. J'espère que cet audio t'a intéressé. Si tu souhaites être averti de la publication des audios suivants, je t'invite à demander ton abonnement à ma newsletter via le formulaire de contact que tu trouveras sur mon site. Pour soutenir mon travail, tu peux le faire connaître autour de toi, m'inviter pour un atelier débat sur ce sujet, ou encore faire réaliser un diagnostic des pollutions électromagnétiques de ton lieu de vie ou de travail. Être sur Terre apporte des solutions concrètes et fiables pour réduire ton exposition. Merci de ton écoute et je te dis à bientôt pour le prochain épisode dans notre monde électromagnétique et connecté. C'était Clémence d'Être sur Terre.